talmudique. Philippe Zard, bonjour.
Bonjour.
Philippe Zard, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour prolonger notre conversation autour de la littérature et du judaïsme. Nous avons vu la semaine dernière un aspect important de votre recherche que vous nous proposez dans votre ouvrage de Shylock à Sinok, Essai sur les judaïsmes apocryphes, et qui portait sur la question du maranisme et ses rapports avec l'identité et la manière dont la littérature en permet à la fois l'élaboration et la transmission. Je rappelle votre conclusion, on appellera donc maranisme cette acculturation du judaïsme adultéré, abâtardi, dilué, sublimé, traduit, interprété, défiguré, mais rémanent qui scinde de diverses manières les structures de l'identité et de l'allégeance. Le maranisme est l'introduction du pluralisme et de la complexité au cœur de l'identité normative et postule un lien indéterminé avec un judaïsme tantôt revendiqué, tantôt dénié. Le maranisme est aussi, je pense, une manière de transmettre le judaïsme, d'en élaborer l'héritage, de réfléchir sur son héritage ou sa destruction par des voies discrètes, parfois si discrètes qu'elles sont passées inaperçues, non seulement du grand public, mais aussi des spécialistes. Ainsi, l'héritage littéraire d'Hermann Rochning, à qui vous consacrez la seconde partie de votre livre et dont vous avez déjà dit un mot en début d'émission de la semaine dernière, la partie qui s'intitule « L'invention du judéo-christianisme ». Qui est Hermann Rochning et quelle est l'importance de ce personnage et de son œuvre dans la question qui vous occupe sur les littératures maranes et apocryphes, Philippe Zard?
Alors, Hermann Rochning est un personnage assez controversé. C'était d'abord, il faut le dire, un compagnon de route de Hitler et du nazisme. Il a été président du Parlement de Danzig au début de l'ère nazie. Il a été donc un proche de Hitler. Et au bout de quelques années, il a rompu avec lui, considérant qu'il était dément et qu'il amenait l'Allemagne vers l'abîme. Il a rompu avec lui. Il s'est exilé d'abord en Europe, puis aux États-Unis, jusqu'à devenir une des voix les plus célèbres de la dénonciation du nazisme, je dirais une des voix conservatrices les plus célèbres de la dénonciation du nazisme, et il s'est fait connaître en particulier par deux livres, La révolution du nihilisme et un recueil de conversations avec Hitler qui en français est traduit par Hitler m'a dit. Ce livre tombe sous les yeux d'un exilé juif viennois, Armin Robinson, un agent littéraire, un compositeur d'opérette. Et dans ce livre, Armin Robinson trouve des passages dans lesquels Hitler énonce clairement sa guerre métaphysique, sa guerre théologique contre le judaïsme et contre le christianisme, dans un passage particulièrement célèbre où il déclare de manière absolument brutale et sans équivoque sa volonté d'en finir avec la loi mosaïque, avec les interdits mosaïques, censés avoir en quelque sorte empoisonné l'énergie et la force de l'âme européenne, autrement dit l'âme païenne bien sûr, originelle, et l'âme germanique en particulier. Et il faut en finir, dit Hitler, avec ce poison introduit par les juifs dans la culture européenne. Armin Robinson a alors le projet d'un livre, on est en pleine guerre mondiale, qui expliquerait aux Européens et aux Américains, en substance, ce projet iconoclaste de l'hitlérisme. Et il projette donc d'en faire un film. Il va discuter à Hollywood. Le film ne verra pas le jour pour toutes sortes de raisons, qu'importe. Mais il ne désarme pas. Et avec Thomas Mann, il élabore le projet d'un recueil de nouvelles qui va rassembler 10 écrivains sur la base d'un projet qui, à mon sens, n'a pas d'autre exemple en littérature, n'a pas de précédent, qui est de confier à chaque écrivain un travail sur un des 10 commandements, un des 10 articles du Décalogue, afin de montrer que l'hitlérisme a déclaré la guerre à ses commandements mosaïques. Alors, il s'agit pour l'essentiel de 9 nouvelles de guerre, qui raconte donc des épisodes de la guerre contre le nazisme, et d'une nouvelle de Thomas Mann, qui, elle, n'a plus grand-chose à voir directement avec la guerre, mais qui est l'histoire de Moïse, de l'Exode et du Sinaï, qui va ouvrir le recueil et donc qui va être censé illustrer le commandement monothéiste lui-même. Voilà le projet.
C'est un peu la suite de son travail sur Joseph et ses frères.
C'est tout à fait ça. C'est ce que j'appelle une sorte de post-scriptum ou d'appendice, puisque entre 1933 et 1942, Thomas Mann avait travaillé à une tétralogie absolument monumentale qui réécrit en donc quatre gros romans cette histoire qui ne tient que quelques pages dans la Genèse, qui est l'histoire de Joseph. Et donc, c'est le prolongement presque logique de cette tétralogie que Thomas Mann écrit à cette occasion.
Alors, vous avez parlé de 10 auteurs qui furent les écrivains contactés pour ce projet. Et en vous écoutant, je me demande où est passé Rochning, parce que on a compris que Rochning est un penseur, un idéologue anti-nazi. Mais quand vous parlez du projet, on a l'impression que c'est Thomas Mann et Robinson qui le mènent. Mais on ne sait plus où est passé Rochning.
Rochning est celui qui a donné l'idée à Armin Robinson et qui va préfacer l'ouvrage une fois celui-ci rédigé. Et dans cet ouvrage, il va raconter à sa manière. Alors, je ne suis pas entré dans ce détail. Il faut dire que la mémoire de Rochning et les témoignages de Rochning sont un tout petit peu suspects. Il a beaucoup réécrit, trafiqué, qu'importe. Hein, c'est aussi, d'une certaine manière, un ouvrage apocryphe, hein, les ouvrages de Rochning. Mais Rochning préface ce recueil et met en scène Hitler. Alors, c'est très spectaculaire. Comme un anti-Moïse déclaré en disant « voici venu le temps où d'abattre les lois du juif Moïse et d'en finir avec le servage auquel nous a condamné le judaïsme ». Et donc c'est très spectaculaire et on voit d'ailleurs des officiels nazis se gausser de chacun des commandements du décalogue. Cela donne le ton de l'ensemble de l'ouvrage et Rochning dans cette préface en appelle à une sorte d'union sacrée des juifs, des chrétiens et des humanistes libres penseurs face à ce néo-paganisme et cette nouvelle barbarie incarnée par le nazisme. Voilà, le rôle de Rochning est plutôt ici de donner l'orientation générale du propos.
Et les 10 participants donc ?
Alors les 10 participants, ce sont pour l'essentiel des écrivains qui, à l'époque, étaient très connus. Alors j'ai cité Thomas Mann qui était déjà prix Nobel. Il y avait des écrivains que les Français connaissent encore, qui sont Jules Romain et André Mauroy. Il y avait des écrivains américains comme Louis Bromfield, qui était assez connu à l'époque aussi. Des écrivains, des exilés allemands ou autrichiens, comme et souvent juif, allemand, autrichien, comme Franz Werfel ou Bruno Frank. Il y avait Rebecca West, qui était à l'époque quelqu'un de très, très connu aussi, et d'autres un peu moins connus. Mais disons que c'était une équipe d'écrivains plutôt de bonne réputation, même si le livre a plus d'une fois, je dirais à l'exception sans doute de la nouvelle de Thomas Mann, déçu les amateurs de littérature. Ce n'est pas de la grande littérature, c'est une littérature de circonstances. Mais c'est un livre qui demeure quand même extrêmement intéressant en ce qu'il constitue une tentative de dialogue par le récit entre la culture moderne et cet héritage mosaïque.
Alors pourquoi l'avoir fait rentrer dans cette grande fresque de votre livre sur les judaïsmes apocryphes ?
Alors, au sens où, d'une part, je pense que ce que l'on appelle aujourd'hui judéo-christianisme, comme si la notion allait de soi, ne va pas de soi. En réalité, ce n'est évidemment pas pour condamner cette notion que je dis cela, c'est tout simplement que c'est une notion récente et que d'une certaine manière, ce judéo-christianisme est une construction théologique, morale et culturelle, qui, au fond, date du XXe siècle. Et en ce sens, de même que j'ai pu dire ailleurs dans mon livre que le christianisme lui-même était peut-être un judaïsme apocryphe, eh bien, le judéo-christianisme est à son tour une reformulation, une réélaboration de valeurs, de credos, dont on peut ici mesurer à la fois, je dirais, l'importance politique, mais aussi la relative fragilité philosophique.
Dans le sens que
eh bien, on comprend très vite en lisant chacune de ces nouvelles illustratives et chargées de faire en quelque sorte l'apologie d'un des commandements, que cela ne va pas de soi, par exemple, pour une conscience moderne, de considérer que le commandement qui, par exemple, pour ne citer que l'un des plus célèbres, interdit l'adultère, est encore un commandement majeur de la conscience moderne. Et c'est encore plus difficile, disons-le aussi, de considérer que le nazisme aurait eu pour projet de s'attaquer à un tel commandement. Et c'est assez intéressant d'analyser la manière dont André Mauroy essaye de se dépêtrer de cette difficulté. Comment faire sans passer pour une sorte de perle à morale pour défendre le commandement « tu ne commettras point l'adultère ». Bon, ce n'est qu'un exemple. Et comment faire aussi pour, par exemple, défendre la question du respect du Shabbat ? Quel rapport entre le respect du Shabbat et l'antinazisme ? Vous comprenez la difficulté où l'on se trouve. Il y a même une difficulté supplémentaire, pour tout dire, et qui affleure, mais qui n'est jamais dite en toutes lettres dans ce récit. Parmi les griefs qui sont prêtés à Hitler contre le décalogue, il y a cette idée assez hallucinante que, au fond, le Dieu de la Bible est une sorte de dictateur qui veut prescrire de manière autoritaire des commandements stupides à l'humanité. Or, évidemment, il y a dans la pensée moderne, dans la pensée séculière, une mise en valeur de l'autonomie morale. On n'aime pas trop l'hétéronomie dans la modernité. Or, quoi de plus hétéronomique que le décalogue ? Donc, comment certains auteurs laïcs, agnostiques, vont-ils se tirer d'affaire avec ces commandements hétéronomiques qui semblent non pas émaner forcément de la conscience morale, mais d'une autorité supérieure ? Et on voit que ce n'est pas toujours facile, et quand on analyse les textes, on se rend compte de la difficulté, parfois même des contradictions, où s'empêtrent certains romanciers.
Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est la difficulté de ce décalogue oblige à, d'une part, à se reconfronter avec le texte, mais peut-être à la réinterprétation. C'est un petit peu comme nous l'avons évoqué la semaine dernière avec le sabot fendu qui serait la littérature qui nous dit qu'il y a certains chemins qui ont été déjà pris dans la pensée, mais qu'il faut tenter d'autres chemins, d'autres aventures, et que lire, et c'est peut-être une belle définition de la lecture, ce n'est pas seulement projeter ce que l'on a envie dans le texte, mais se laisser questionner par le texte, c'est-à-dire amène à véritablement une remise en question.
Absolument. S'il y a non seulement une vertu, mais je dirais même une urgence de l'exégèse et de l'interprétation, c'est précisément en ce qu'elle est un effort d'appropriation. Et notamment dans les textes prescriptifs, comme ceux de la Torah, comment faire pour que ces textes prescriptifs, je me les approprie, hein, je les fasse bien, cela peut supposer parfois de leur faire violence. Et nous savons qu'il y a, dans toute interprétation, une forme de violence. On le voit, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la question du Shabbat, il y a une interprétation qui est clairement une interprétation antilittérale du Shabbat. Le Shabbat, dans une des nouvelles, est au fond, les valeurs sacrées que, par piété, par fidélité, on n'accepte pas de voir profané. Et on peut avoir, par exemple, un Shabbat de l'amour ou de l'amitié. Bien évidemment, ce n'est pas une interprétation rabbinique ou, en tout cas, pas une interprétation scrupuleuse du texte du Décalogue. Mais en même temps, c'est un effort de lecture qui réactive, finalement, des sens latents de la notion du Shabbat comme fidélité transhistorique en quelque sorte à une valeur supérieure.
Devant la loi se tient un garde. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Mais le garde ne peut le laisser entrer. Peut-il espérer être admis plus tard ? C'est possible, dit le garde. Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir. Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous ? Ne tente pas d'entrer sans ma permission, dit le garde. Je suis très puissant. Et pourtant, je ne suis que le dernier d'entre les gardes. De salle en salle, de portail en portail, chaque garde est plus puissant que le précédent. Avec la permission du garde, l'homme s'assied près du portail. Et là, il attend. Pendant des années, il attend. Petit à petit, il se sépare de tout ce qu'il possède dans l'espoir de soudoyer le garde qui, à chaque offrande, ne manque pas de lui dire « Je n'accepte que pour que tu puisses être certain d'avoir tout tenté. » À force d'épier sans cesse le garde, au cours des longues années d'attente, l'homme finit par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure. Avec l'âge, il retombe en enfance et il supplie ses puces d'intercéder auprès du garde pour qu'il le laisse entrer. Dans les ténèbres, car sa vue a baissé, il discerne une radieuse lumière filtrant à travers les portes de la loi. Et maintenant, au seuil de la mort, tout pour lui se résume en une dernière question. Il fait signe au garde. « Tu es insatiable, dit celui-ci. Que veux-tu encore ?» Et l'homme de dire, « Si, comme il est écrit, chacun s'efforce d'atteindre la loi, comment se fait-il que nul autre ne se soit présenté ici au cours de toutes ces années ?» Et puisque l'homme entend à peine, le garde lui rugit dans l'oreille, « Parce que nul autre que toi n'aurait jamais été admis, parce que nul autre n'aurait pu franchir ce portail, il n'était destiné qu'à toi. » Maintenant, je vais le fermer.
Devant les portes de la loi, Kafka, ici dans la version du prologue qu'Orson Welles plaça au début du procès, son film de 1962, Kafka qui a une place privilégiée dans cette littérature marane et apocryphe, dans votre livre, Philippe Zarn, Kafka qui écrivait dans une lettre à Félicie Bauer du 7 octobre 1916, « Du reste, pourrais-tu me dire aussi qui je suis en fait ?» Dans le dernier numéro de « Die Neue Rundschau », on parle de la métamorphose, on la récuse pour des raisons sensées, et on dit à peu près « l'art de Kafka comme conteur a quelque chose de foncièrement allemand ». En revanche, dans l'article de Max Brod, on peut lire « les récits de Kafka font partie des documents les plus juifs de notre temps ». Un cas difficile, suis-je, dit Kafka, un écuyer de cirque monté sur deux chevaux? Malheureusement, je n'ai rien d'un écuyer, je gis par terre. N'est-ce pas cette indécision qui fait entrer son œuvre dans la sphère du littéraire, Philippe Zarn? Indécision que l'on retrouve dans un des personnages de Kafka, une bobine sous forme d'étoile appelée Odradek, ou encore qu'on retrouve dans cet animal étrange, hybride, entre chat et agneau, dont vous faites une très longue et importante analyse, Philippe Zarn.
Alors oui, je dirais que s'il y avait besoin d'un pape du judaïsme apocryphe, ce serait sans doute Kafka, parce que beaucoup d'écrivains ultérieurs vont se rapporter d'une manière ou d'une autre à cet héritage, à l'héritage de quelqu'un qui lui-même se plaignait des ruptures et des ratés de son propre héritage. Hein. Et c'est cette succession de ratés de la transmission qui va constituer finalement l'un des drames, mais un des drames les plus riches hein, de la conscience juive moderne. Alors qu'est-ce que c'est que cette forme particulière de rapport à la tradition chez Kafka? Je dirais de la manière suivante, il y a un ancrage approximatif dans la tradition. C'est-à-dire que pour ceux qui ont écouté ce texte extraordinaire des Portes de la Loi, eh bien, il y a un effet de familiarité qui est absolument indubitable, au point qu'on a pu parfois confondre ce texte avec une histoire chassidique, et j'ai déjà assisté à ce type de confusion. Un air de familiarité, un ancrage approximatif, mais en réalité, pas de source proprement dite. En revanche, des schémas, des patrons narratifs que nous identifions avec un minimum de culture juive, soit dans les textes bibliques, soit dans certains textes midrashiques. Donc un ancrage approximatif dans la tradition, mais un déficit de légitimité. Kafka n'est pas un rabbin, Kafka n'est pas un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui est un autodidacte en matière de judaïsme. Donc il invente, c'est peut-être une docte ignorance, mais il réinvente un judaïsme à sa façon. un judaïsme que j'ai appelé parfois un judaïsme hors piste ou un judaïsme hors les murs. Et enfin, un troisième élément, une indétermination des effets de sens qui est absolue. Alors, bien sûr, l'ouverture herméneutique est un des caractères propres des textes juifs eux-mêmes. Sauf que, d'une certaine manière, dans le judaïsme traditionnel, et je, sans doute peut-être, enfin, peut-être que je vais trop loin, mais il me semble qu'il y a des boussoles. Un certain nombre de règles qui viennent canaliser l'interprétation. Dans les textes littéraires, évidemment, nous avons affaire à une littérature et à une interprétation sans gouvernail, pour reprendre une image qu'on trouve même dans l'œuvre de Kafka. Donc nous sommes livrés à nous-mêmes dans un texte qui n'est plus arrimé, qui n'est pas accroché à une révélation, ni même à une quelconque inspiration divine. Et nous sommes jetés dans cette interprétation avec cet effet de vertige où nous met Kafka et où Kafka même se fait visiblement un plaisir de nous plonger. Donc en ce sens, oui, il y a bien un rapport à la tradition, mais un rapport à une tradition presque devenue folle.
Alors j'ai l'impression que Kafka voyage sans gouvernail et pourtant, c'est ça sa force, il rejoint les côtes. Son bateau arrive sur le rivage. Il y a ce chapitre Kafka sur le rivage que vous reprenez de Murakami.
Oui.
Le mot juif n'apparaît effectivement pas dans toute l'œuvre de Kafka, en dehors des lettres et de son journal. Et pourtant, Scholem disait à ses élèves du département de mystique juive en première année, celui qui veut commencer à comprendre quelque chose à la Kabbale doit lire Kafka, tout Kafka, et en particulier le procès. Walter Benjamin disait de l'œuvre de Kafka qu'elle est une agada pour laquelle il faut retrouver la halakha, une tradition narrative pour laquelle il faut retrouver la loi. Et Kafka disait de lui-même, dans son journal du 16 janvier 1922, toute cette littérature aurait pu aboutir à une nouvelle Kabbale. Et il y a des signes pour cela. Vous parlez à propos de Kafka d'une tradition cachée, d'une tradition cassée. En quel sens ? Tradition ou non-tradition ? Gouvernail ou non-gouvernail, Philippe Zard ?
Alors, la citation de Scholem que vous avez faite est très intéressante. Pourquoi Scholem s'est-il intéressé à Kafka ? Parce qu'il s'était préalablement intéressé à la Kabbale. Or, qu'est-ce que la Kabbale ? Aujourd'hui, nous avons tendance à rapatrier la Kabbale dans le judaïsme normatif, mais il faut se souvenir que la Kabbale était au départ sans doute quelque chose comme une excroissance un peu imprévisible de la tradition juive.
Anarchique.
Et anarchique, au point que certains la récusaient et qu'elle a été rapatriée a posteriori. On pourrait dire d'une certaine manière que Scholem s'intéresse à Kafka pour la même raison. Il a une passion pour ceux qui sortent des périmètres autorisés sur ces quasi-hérétiques, peut-être avec l'espoir de rapatrier postérieurement Kafka dans le giron de la tradition, dans laquelle il aurait certainement sa place. Sauf que, évidemment, il n'a pas de père, il n'a pas d'autorité, l'autorité qu'avaient les rabbins kabbalistes. Donc, oui, tradition cassée, je crois qu'il n'y en a pas d'autre au XXe siècle en littérature. Je dirais, si on reste dans une tradition intacte, inentamée, on ne prend pas le risque de la littérature. Et ce qui est intéressant avec un texte comme ceux de Kafka, enfin avec des textes comme ceux de Kafka, c'est que, au fond, ce n'est pas quelqu'un qui réécrit purement et simplement des textes anciens. C'est quelqu'un qui les déforme, qui les défigure avec une liberté sans limite. Vous parliez de ces animaux bizarres, en effet. Kafka ne mentionne jamais le judaïsme comme tel. Il y a quand même un texte qui s'appelle « Dans notre synagogue ». C'est presque l'exception, mais même le mot « juif » n'y est pas prononcé, n'y est pas écrit. Et là, il est question d'une bête curieuse, indéfinissable, qui hante cette synagogue, qui amuse les fidèles, qui effraie et séduit les femmes en même temps. Et il est évident que Kafka se met ici en scène. Quelle est sa place dans la tradition ? C'est une place excentrique. Il est à l'intérieur, mais à l'intérieur sans y être. Il en est, mais il n'y est pas. Et au fond, c'est une assez bonne représentation de ce que nous faisons même quand nous interprétons Kafka. Nous l'interprétons à la lumière du judaïsme, mais nous n'aurions jamais l'idée de le rattacher à une quelconque doxa, orthodoxie judaïque. Donc, et Kafka s'est constamment représenté, alors vous avez cité ce passage extraordinaire de sa lettre à Felice Bauer, à travers des animaux hybrides, inclassables. Le plus singulier sans doute est celui que vous connaissez bien, et qui est ce chat-agneau, qui est une réécriture géniale d'une comptine araméenne que l'on chante pour clore le cédeur de Pâques, qui s'appelle Had Gadia, qui est une comptine un peu comme Alouette ou comme Biquet ne veut pas sortir du chou, dans laquelle un père a donné un chevreau à son fils, mais le fils a été de toute évidence négligent et il a laissé le chevreau se faire manger par un chat. Et là, toute une série de catastrophes, de successions de catastrophes a lieu jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne tout détruire et que Dieu, dans une sorte de rédemption finale, vienne enfin rétablir la situation, la plénitude de la situation. C'est une comptine très célèbre qui a été interprétée de mille manières, notamment comme une allégorie de relation entre les Juifs, leur terre et Dieu. Donc Kafka fait quelque chose d'extraordinaire puisqu'il en fait, au fond, la parabole d'un héritage dont on ne sait que faire, dont on ne connaît pas la signification, mais dont on ne peut décidément pas se débarrasser. Ce chat-agneau est cet hybride, cette chimère culturelle, religieuse, familiale, dont on ne sait littéralement pas quoi faire.
Et donc il interroge en fait l'héritage, le mot héritage et le verbe hériter est très très présent chez Kafka. Je me souviens de cette phrase de mon père, je n'ai rien reçu qu'une petite boîte à épices en argent, qui est apparemment, presque avec évidence, un clin d'œil au château. Je crois qu'il est important, pour bien comprendre l'enjeu de ce que vous appelez les judaïsmes apocryphes, de s'arrêter sur deux auteurs que vous convoquez comme une sorte de conclusion de votre parcours, Pérec et Modiano. Ici, c'est l'image du spectre juif que vous convoquez. Au passage, on ne peut pas ne pas penser au livre de Philip Roth, The Ghost Writer. Qu'est-ce qu'un sceptre, qu'est-ce qu'un spectre juif? Pardon, je reprends. Qu'est-ce qu'un spectre juif, Philippe Zard?
Oui, spectre et sceptre, finalement, ce sont des mots qui peuvent assez bien consonner l'un avec l'autre. Peut-être que le spectre, c'est quand on a perdu le sceptre. Alors, pourquoi spectre? Parce que Kafka, lui, se plaignait d'un héritage dont on avait dit qu'il n'avait pas été transmis, mais il y avait, à défaut de judaïsme, il y avait encore des juifs. Or, dans le cas de Modiano et de Pérec et d'autres écrivains d'après le génocide, il y a eu la catastrophe que l'on sait, et où non seulement le judaïsme a été englouti, mais des millions de juifs. Et ce traumatisme mémoriel et ce traumatisme historique va être à son tour un héritage, mais un héritage infiniment encombrant, douloureux et ambivalent. Et ce qui m'a intéressé dans l'analyse des œuvres de Pérec et Modiano, c'était au départ en tout cas l'extrême ambiguïté de leur rapport à cet héritage, puisque cette mémoire de la catastrophe devenait en quelque sorte à son tour une mémoire persécutrice. Les spectres juifs de Modiano et de Pérec sont au départ des spectres persécuteurs. Il y a ce roman extraordinairement difficile et formellement incroyable qui s'appelle « La disparition de Pérec », qui est un lipogramme, c'est-à-dire une lettre sans « e ». On sait bien sûr que « e » c'est « e », depuis « W » ou « Le souvenir d'enfance ». Mais cette disparition, qui se présente comme une sorte de roman policier fantaisiste, est une parabole sur le génocide, mais pas du tout une parabole bien pensante. C'est une parabole dans laquelle il semble que les Juifs soient à la fois persécutés et persécuteurs. Et en effet, l'orphelin du génocide, peut-être persécuté par la douleur dont il est l'héritier. Et de la même manière pour Modiano, les premiers livres de Modiano n'étaient pas du tout l'équivalent de ce que sera Dora Bruder quelques années après. Les premiers livres de Modiano règlent des comptes obscurs avec la période de l'occupation. Hein, l'occupation est vraiment la zone grise où l'on voit fricoter des juifs et des collaborateurs, où l'on voit des personnages qui jouent un double rôle. Et en grande partie, d'ailleurs, c'est commandé par l'ambivalence de Modiano par rapport à la trajectoire de son propre père. Donc, dans une très large mesure, cet héritage est en effet un héritage spectral, persécuteur, une hantise, autant qu'une mémoire fertile.
Merci Philippe Zard de nous avoir, pendant ces deux semaines, donné les clés de votre mal au trésor et de nous avoir fait découvrir des auteurs et des textes rares, voire inconnus, et de nous avoir donné envie d'en relire d'autres qui prendront un tout autre éclairage par les analyses que vous en proposez dans votre livre, dont je rappelle le titre, « De Shylock à Sinoc, essai sur les judaïsmes apocryphes », paru aux éditions Classiques Garnier. Merci encore Philippe Zard.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Pierre Monteil, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau. Coltouve, l'œil traote, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.